Brewster's handouts there, we might as well. Okay. Good afternoon, everyone.
Bien, bonjour à tous. Nous sommes dans la session de responsabilité et transparence. Steve va nous parler dans deux secondes, c'est Steve Crocker. Et nous allons mentionner les aspects d'Aterté, c'est Christy Spain qui parle. C'est sûr, on va prendre vos commentaires et puis nous allons tirer les leçons que nous avons apprises et nous allons entendre l'équipe d'Aterté. Ils sont tous ici. Steve? Merci, Chris. C'est Steve Crocker qui prend la parole. Je voudrais vous montrer la diapo suivante. Bien, je vais passer de diapo. C'est moi qui les contrôle. Ce n'est pas fréquent. Bien. Donc, le but de cette discussion est de vous montrer la révision de la mise en place d'ATRT, discuter les résultats jusqu'à présent de l'équipe de transparence et responsabilité d'ICANN et discuter la focalisation et les changements, le processus de changement pour la prochaine révision d'ATRT. C'est ici où nous sommes dans la première étape. Et le principal de cette session, c'est de ne pas vous parler seulement, mais aussi d'avoir vos commentaires et vos opinions. La révision d'ATRT est dans le contexte de la réaffirmation d'engagement que l'on a signée en 2009, qui a réaffirmé l'indépendance d'ICANN et son engagement avec la transparence, la responsabilité et l'intérêt public, avec la stabilité des DNS, l'engagement avec la confiance et le choix des consommateurs et à la participation internationale, et pour établir un système de révision de la communauté périodique et des activités relationnées. Et l'une de ces révisions est celle de l'équipe de responsabilité et transparence. Nous avons en même temps la révision de la solidité, de stabilité et de sécurité. Et on a la révision de WHOIS et on a une quatrième révision que nous n'avons pas finie et on s'excuse là-dessus. On fait ce type de révision toutes les trois années et on nous exige de faire des rapports. Je pense que la quatrième révision porte sur la promotion de la concurrence, la confiance des consommateurs et le choix des consommateurs. Alors, l'équipe de révision de responsabilité et transparence, c'est le ATRT, je pense que vous savez tous, a fait 27 recommandations. Et les membres du directoire ont accepté toutes ces recommandations et la stratégie disponible pour nous parce qu'on avait encouragé des attentes par rapport au traitement qu'on allait donner à chaque révision. Et c'était qu'on allait donner à chaque révision la même attention. Et je voudrais expliquer qu'il y a un processus très important qui est involué pour que les équipes de révision nous passent leur rapport. Mais pour ce cas-là, avec le ATRT, on a accepté toutes les recommandations qui étaient 27 et on est passé rapidement à la mise en place des recommandations. C'était un travail très actif et très important. C'était un travail énorme qui a évolué des regroupements différents, comme pour le GAC, le directoire et d'autres groupes. Et c'est là qu'on va se centrer aujourd'hui. C'était prévisible et on n'a pas avancé autant qu'on aurait voulu et que le reste du monde aurait voulu, mais on a quand même travaillé beaucoup, on a fait beaucoup de progrès. Certaines des recommandations ont été complètement mises en place et d'autres sont presque conclues et on a des cas où il reste beaucoup à faire par rapport à l'exactitude et à contrôler ces recommandations. Les recommandations d'ATRT appartiennent aux trois catégories principales, c'est la contribution publique et l'accès multilinguistique. On a Phyllis et Christina qui vont adresser ce point. Et puis, par rapport aux engagements du CAC, nous avons Bill Graham. Emmanuel, je pense. Oui, bonjour. Et pour répondre à ces questions, et pour tout ce qui est trait aux engagements du directoire, on a des gens de Bruce Duncan ici. Et puis nous allons passer la parole à Denise sur le suivi, les paramètres, et puis les leçons qu'on a tirées de ce processus. On a Chris Despain qui va traiter ce sujet, et j'essaierai de conclure. Nous avons jusqu'à 13h30, on me dit, ce serait bon qu'on ne dépasse pas ce délai, ce serait bon donc de pouvoir le conclure avant 1h30 et de voir les modifications que vous voulez voir. Donc j'espère qu'on va avoir votre participation. Chris, tu voulais le faire ou devrais-je passer directement à Phyllis et Christina? Alors, vous êtes maintenant les responsables et c'était toujours le cas, en fait. C'est Phyllis Yilmaz qui prend la parole, membre du staff d'ICANN. Je suis responsable de la direction de participation et engagement et je vais directement prendre des commentaires publics par rapport aux recommandations ATRT. On a eu 4 recommandations principales qui portaient sur le système et c'était présenté pour la paix. Par rapport à la présentation de la période de commentaires publics. Et donc, on avait la stratification et la priorisation dans la recommandation numéro 15. On avait des périodes pour réponse, ces commentaires qui devaient être séparés dans les recommandations 16 et 17. Et puis, la liste annuelle de sujets à venir, c'est la recommandation 21. Par rapport à la stratification et la priorisation, comme on l'a compris, selon la consultation avec l'équipe, on nous dit qu'on a un volume très grand de périodes de commentaires publics ouverts en même temps dans le forum d'ICANN. Et avant l'ouverture, on aurait besoin de faire une catégorisation entre les périodes et les problèmes que l'on traite à chaque période pour avoir plusieurs choix ou pour pouvoir avoir des préférences par rapport à la priorisation. Puis, par rapport à la séparation des périodes de commentaires et réponses, on a travaillé entre le comité et les groupes sur la duration des périodes. En général, on reçoit les commentaires à la fin et même le dernier jour de la période de commentaires. On a des raisons pour cela. On a un système de consensus au sein de chaque groupe et ils veulent faire leur propre processus avant de répondre à un problème. Mais on a aussi, je pense, des contraintes de gérance du temps, de gestion du temps. Et la réponse est que si on avait une période plus longue, on pourrait encourager le dialogue pour revenir aux commentaires qui ont déjà été présentés et faire des remarques sur les problèmes qui ont été présentés préalablement. Et puis par rapport à la recommandation numéro 21, était sur la sensibilisation. On a eu un grand volume de périodes de commentaires publics, encore une fois, ouverts en même temps sur le forum d'ICANN. Et l'un des problèmes est qu'il est bon de savoir ce qui est à venir. Si on a tous des programmes et les groupes ont tous des programmes qu'ils peuvent suivre, ils vont savoir ce qui suit et donc ils vont chercher à avoir les contributions de la communauté. Donc ce serait bon d'avoir une liste des périodes à venir pour qu'ils puissent commencer à travailler dessus, pour qu'il y ait davantage de connaissances sur ce qui est à venir. Alors en février 2011, toutes ces recommandations ont été présentées pour la période de commentaires publics en elle-même. Et on a vérifié avec la communauté large Et en avril 2011, le staff d'ICANN a commencé à faire la planification qui a été suivie par l'approbation du directeur d'ICANN par rapport au plan de mise en place initiaux en juin 2011. Puis entre juin et novembre 2011, on a parlé et travaillé avec la communauté. Et je vais le dire en davantage de détails dans deux secondes. Et puis en janvier 2012, c'était donc au début de cette année, on a présenté un nouveau système. Et donc cette mise en place graduelle se fondait principalement sur la cohérence que l'on fournissait pour les périodes de commentaires publics et la façon dont on les montrait. Et le principal était d'établir la base et puis de travailler dessus à partir des modèles qui ont été mis en place entre les membres du staff et on se sert tous des mêmes modèles pour fournir le même type d'information. Le but, les statuts ou quelle est l'étape à suivre après la période de commentaires publics, ce sont des parties cohérentes pour toutes les périodes de commentaires. Et en 2011 aussi, on a fini la mise en place de la recommandation numéro 21, qui était la publication des périodes de commentaires publics à venir. Entre juin et novembre, on a travaillé avec la communauté pour raffiner les détails. Et ce qu'on a fait à cet effet était de convoquer les leaders de la communauté, dont les présidents des AC et des regroupements. Et on a rassemblé des gens dans un groupe, c'était des volontaires, à peu près 20, et on a travaillé avec eux et on leur est très reconnaissant de leur travail. Ils ont fourni des informations, ils ont contribué pour qu'on travaille sur ces détails. Et comme je dis, on a raffiné les plans de mise en place sur la base de ces commentaires qu'on a reçus du groupe de travail. Et puis, on a ouvert une période de commentaires public entre les mois de septembre-octobre pour recevoir davantage de commentaires de la communauté au large. Et puis, en janvier, une fois qu'on a commencé à mettre en place ces recommandations, on a commencé donc en janvier 2012 avec tous les commentaires publics. Ils sont tous catégorisés et ils ont des labels. On a deux noms de catégories dont on se sert pour les périodes de commentaires et on s'en sert de façon continue. On a deux cycles, c'est les périodes de commentaires et la période de réponse. Elles sont différentes et on a un minimum de 21 jours pour les commentaires. Si on n'a pas de commentaires, bien sûr, on ne fait pas une période de réponse là-dessus. Et puis, les commentaires publics sont mis à jour régulièrement sur la base des commentaires que l'on reçoit des leaders de la communauté et du staff d'ICANN. Le système a été en place depuis 5 mois. On espère l'observer pendant 6 mois et je voudrais faire des commentaires vu ce que j'ai observé et avec ce que la communauté m'a dit, avec leur expérience en se servant du nouveau système. La structure de commentaires et réponses n'est pas utilisée comme elle devrait l'être. Et on voit les réponses dans les forums dont on se sert peut-être comme une extension, un prolongement de la période de réponse, de commentaires. Et le traitement des commentaires préalables n'est pas très bon. C'était entre 7 et 8% de vieilles publications. Et la réponse était bien publiée par rapport à un commentaire préalable. C'est très important d'évaluer les périodes de commentaires et la duration. À peu près 50% sont utilisés dans un minimum de 21 jours. Et c'est le créneau temporaire dont on se sert. Et les gens pensent que c'est une période trop courte et la plupart des groupes doivent générer le consensus au sein de leur groupe et 21 jours est trop peu de temps pour pouvoir tout faire. On nous dit en même temps qu'on a des problèmes où on reçoit des commentaires en conflit et on doit les regrouper. Par exemple, on nous dit que c'est une période trop courte pour certains groupes et en même temps, c'est une période trop longue pour d'autres groupes. Peut-être que 21 jours en tant que période pour réponse ne sont pas nécessaires. Jusqu'à présent, et on a maintenu une session ce matin à 9 heures avec le comité de participation publique et la communauté. Et nous avons noté de bons commentaires, de bonnes idées. On va travailler dessus. Et certaines des idées étaient de prolonger la duration de la période minimale de la période de commentaires, de la faire peut-être de 30 ou jusqu'à 45 jours. Et est-ce qu'on devrait permettre la superposition, une simultanéité entre les deux périodes de réponse et de commentaires? Et on me dit encore une fois que ce pourrait être très utile si on se sert de ces deux périodes de façon efficace. Et ma question à ce point-là est si vous êtes prêt à entamer un dialogue en tant que membre de la communauté. Je voudrais savoir à quoi vous attendez des processus de commentaires publics d'ICANN. Est-ce que les déclarations peuvent être publiées pour que les organisations qui les ont originées puissent faire des commentaires? Ça vous semble bien, ça peut être le directoire ou le staff d'ICANN. Ou alors, est-ce que vous trouvez que c'est un environnement qui devrait être facilité pour le dialogue et l'interaction? Ou alors, est-ce que c'est les deux? Donc, voilà à quoi on pense en tant qu'amélioration pour aujourd'hui. Merci. Bien, c'est Steve Crocker qui prend la parole. On va prendre vos questions, vos commentaires sur cette présentation. Bonjour, je suis Jonathan Sack de l'Association pour la technologie compétitive et c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, donc je vais venir au micro fréquemment. Et il est surprenant comment on est contraint par les mots qu'on présente. En fait, l'équipe de transparence et de responsabilité suggère que la transparence et la responsabilité devraient être traitées dans les mêmes termes. Et en fait, on devrait s'en servir en tant qu'un moyen pour mesurer le succès de ces programmes. Et la meilleure analogie dont je peux penser est qu'il est un peu comme créer une politique industrielle pour encourager l'innovation dans des voitures électriques et ne pas penser à faire des endroits où on peut brancher les voitures pour les recharger. Et donc, on sent qu'on a une déconnexion entre les améliorations pour le processus de commentaires et le processus de prise de décision. Je pense qu'on pourrait travailler pour que la confiance des gens augmente et que ces commentaires soient pris tenu en compte et qu'ils deviennent une partie du processus de prise de décision. Et donc, ce n'était pas partie des recommandations et c'est un peu hors la portée. Et on voit que, en fait, l'équipe de commentaires publics et l'équipe de participation publique a beaucoup travaillé dessus pour mettre en place les recommandations qu'ils ont reçues. Et je pense que le plus les gens participent, le plus on aura une intégration objective qui sera intégrée dans le processus de politique dont on a besoin pour s'intégrer avec le GAC. Donc, il me semble que ce serait là qu'on devrait se centrer, ce serait l'objectif pour la prochaine équipe de révision. Ce serait la façon d'installer des endroits où brancher les voitures électriques. Merci. Steve Crocker dit Jonathan. J'ai dit au tout début de la session qu'il ne s'agissait pas simplement de transparence et responsabilité, mais aussi d'efficacité. Et donc, je vais être très attentif à pouvoir tout faire entrer là-dedans. Mais comme j'ai dit, ceci est cohérent avec l'organisation générale. C'est très bien, mais il faut pouvoir faire ce travail avec l'efficacité nécessaire. Et comme Fadi a dit, s'il était à mes côtés la réunion précédente, c'est de le faire avec l'excellence qu'on voudrait. Est-ce que ça a à voir avec ce que vous dites? Jonathan Sack dit, bon, c'est probablement cohérent avec ce que je dis toujours, c'est que la responsabilité est une fonction de la participation effective et que la déconnexion entre les deux est un risque pour nous et pour nous porter préjudice. Et je pense qu'on doit voir ou concevoir le processus de commentaire public comme un processus valable pour l'organisation. Une monarchie peut être transparente, mais pas responsable. Et on dit que lorsque les poubelles disent que c'est un panier pour les commentaires, on ne le voit pas vraiment comme un endroit utile. Et donc, le processus de prise de décision n'est nécessairement pas connecté avec l'institution, avec la responsabilité, et qu'on a besoin de les connecter. Steve Crocker dit oui, c'est un sujet de longue date, mais je pense qu'on n'y est pas parvenu encore. Merci. Bonjour, je suis Don Blumenthal. Je viens pour le registre d'intérêt public. Et la période que les gens vont utiliser pour faire des réponses au lieu de commentaires a été mentionnée lors des premières discussions. Et je pense toujours que la menace potentielle pour la discussion des commentaires et des réponses, je pense que ce serait bon de faire que la période de commentaires initiaux soit plus longue, mais il serait aussi possible de souligner la différence entre les deux, que ce soit un lien sur chacun des commentaires. Ou je ne viens pas du domaine des communications, ce n'est pas mon secteur, mais je pense que je ne voudrais pas que les gens ne participent plus, mais je commencerai avec le staff d'ICANN, à travailler avec eux. Parce que cette semaine, j'ai vu deux situations où le staff d'ICANN m'a dit, bon, on peut envoyer des commentaires jusqu'à ce jour-là, et puis c'est jusqu'à la fin de la période de réponse. C'était ça la date qu'on me donnait. C'était pas la date de la fin de la période de commentaires. C'est critique pour... Je pense qu'on devrait commencer à travailler à l'intérieur de l'organisation. Chris Despain dit, bon, Chris, lors de du comité de participation publique, le PPC, on a dit que c'est le système qui te fait répondre. Donc, on doit se rendre sur un commentaire et peser « répondre ». Et ceci ne prévient pas que les gens puissent faire des commentaires, mais c'est un type de formation pour vous dire, bon, il s'agit d'une réponse. C'est une façon de travailler dessus, dit Chris Despain. Oui, Don Blumenthal reprend la parole. Ça pourrait l'être. Je sais qu'on a discuté ce sujet, mais je parle du groupe de travail qui a fait ce travail. On a des risques pour cette approche, pour la façon dont les gens font les commentaires, mais on doit faire que le mécanisme fonctionne vraiment, et c'est une bonne alternative. Merci, dit Steve Crocker. Bonjour, je suis Louis Lee, présidente de la GNSO, ASO, et un ancien membre d'ATRT 1.0. Je voudrais dire que Fadi Chehadeh est ici avec nous et je vous remercie de venir et de ne pas lire le rapport simplement, de venir entendre les commentaires personnellement. Certains des présidents des SO et des AC et Rod et Akram ont parlé sur ce sujet. On a eu des idées, des suggestions et je vais le faire public en ce moment. Ce n'était pas une discussion qui ait été décidée. Je pense qu'il y a des points là-dessus qui ont déjà peut-être été discutés. Mais si on a jusqu'à 5 jours en tant que notification optionnelle, on vous remercie pour nous demander à chaque année et nous informer ce qui est à venir. Mais si on a une activité la prochaine semaine, on devrait commencer à travailler dessus à l'intérieur de l'organisation pour envoyer une notification publique pour le sujet qui est soumis pour les commentaires. Et si on le reçoit 24 heures avant, on ne parvient pas à faire des commentaires, n'est-ce pas? Et puis, je pense qu'il est optionnel de... Ce sont des demandes optionnelles des ESSO et des AC d'élargir la période de commentaires. Peut-être qu'à l'époque, on n'aurait pas dit que c'était bien, mais parfois on a besoin de plus de temps. Je ne sais pas quel serait le mécanisme pour le mettre en place, mais c'est juste une idée. Et puis, des notifications optionnelles pour les ESSO et les AC pour les intentions de commentaires. Peut-être qu'on pourrait ne pas finir la période de commentaires publics une semaine avant, une semaine après ou même pendant la réunion d'ICANN. Vous savez, le délai est optionnel, mais flexible. Mais ce sont des journées qu'on aurait considérées, des dates à considérer.
Bernard Stab de l'association CORE. Je me demande des fois si le contexte de transparence et responsabilité, si on est vraiment à l'époque de la Révolution française, lorsque les gens parlaient des droits de l'homme. Et on parle de différents sujets et en même temps, on n'a pas vraiment compris le sens de ce mot. Par exemple, les décisions les plus importantes qui ont été prises n'ont pas été discutées. Et les décisions en elles-mêmes n'étaient pas annoncées. Donc, on ne parle pas des décisions qui sont prises, mais en plus, on n'a pas de responsabilité dans ces décisions. Donc, on est perdu et on a perdu de la transparence et de la responsabilité. On la remplace par de la paranoïa. Et donc, je pense que c'est de ça qu'il faut parler. Bien, je voudrais répondre à ce que Louis vient de dire, dit Steve Croker. Louis, Phyllis va répondre. Bien, merci pour cette suggestion. Et c'est quelque chose de pratique qu'on peut mettre en œuvre facilement. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui n'est pas encore devenu une norme. Donc, je veux dire à tout le monde que ça commence. Vous pouvez comme ça trouver des informations. Ce n'est pas exactement comme ce que vous dites, mais nous envoyons des annonces hebdomadaires pour les commentaires publics qui vont être clos dans les 10 jours à venir. Donc, nous faisons cela et je pense que ce que vous suggérez, nous pouvons le mettre en œuvre. L'autre question est l'extension. Nous avons répondu déjà à cela. C'est possible. Si vous pensez que vous avez besoin de davantage de temps, veuillez nous contacter. Contactez le personnel d'ICANN qui se trouve dans la période de commentaires, qui figure sur la période de commentaires et nous allons mettre en place ces extensions dans de délai. Hein. S'il n'y a pas de date butoir urgente. Des fois, le GNSO, c'est plus compliqué parce qu'il y a un PDP avec une date butoir et c'est plus compliqué. Mais dans la plupart des cas, ces extensions de ce prolongement de délai est possible. Donc, nous le ferons et faites-le nous savoir, c'est tout. Merci. À propos de la question des délais, que faisons-nous? Pouvez-vous donner votre nom, s'il vous plaît? Martin Buttonon. Bien. Donc, presque correct. Martin Batterman. B-O-T-T-E-R-M-A-N. Bien. Donc, ici, nous ne regardons pas trop le temps, donc c'est bien, mais je dirais que c'est une question de long terme. Qu'est-ce qu'on fait avec les commentaires? C'est pas à propos des commentaires, c'est à propos de ce qui est bon pour les regroupements, pour les parties prenantes. Et ce que j'ai suggéré l'année dernière était de trouver un système pour que on travaille sur une base structurée avec des conseils et une évaluation de l'impact de ce que l'on fait. Cela est fait par différents gouvernements de l'UNDP et d'autres organisations dans le monde. Ça permet d'avoir une structure et quels sont les effets de certaines mesures sur les décisions politiques, de politique. Une partie de cela est la consultation publique parce que ça a un rôle important à jouer, parce que ça permet de connaître les apports de la communauté, mais il faut aussi connaître les effets de ce que l'on va décider, des décisions qui sont prises, hein, et il faut que les parties prenantes puissent participer aussi. Donc je vous demanderai cela. J'ai envoyé déjà quelques informations à certaines personnes, hein, et je ne vois pas de progrès dans ce sens. Donc je vous demanderai, j'attirerai votre attention sur ce point-là. Merci. Oui, Bruce Tonkin, merci pour cette suggestion. Je pense que c'est un défi, hein, pour nous, et pour les recommandations de transparence. Il y a un défi entre les commentaires publics tout simples et le processus de développement de politique qui appartient au GNSO. Le GNSO coopère avec notre travail dans la question de l'inclusion de cet apport de la part des regroupements. Donc nous avons ce modèle qui nous permet d'avoir un processus très détaillé que l'on utilise de façon à ce que les gens puissent poser des questions. Mais ça prend du temps tout ça. Hein. C'est un processus dans lequel on utilise les commentaires publics. Ensuite, il y a le forum ouvert qui n'est pas structuré. Et ensuite, on va utiliser tout cela. Donc, c'est un grand défi. Hein. Comment est-ce qu'on utilise quel outil utilisons-nous à quel moment, voilà. Et en outre, je dirais que Martin Buttermann, des fois, c'est fait. Hein, mais des fois, ce sont des gens indépendants, c'est pas les regroupements eux-mêmes. Hein. On parle pas d'argent ici. Le fait que ce soit fait par des experts indépendants qui n'ont pas vraiment de choses d'intérêt en jeu, je dirais. Hein. Merci. Bien, après que tous les deux vous ayez fait votre commentaire, votre question, je vais clore la queue ici. J'espère que... Bien, Sébastien, vous avez la parole.
Vraiment, c'est à vous qu'on doit parler, pas à ceux qui sont à la tribune. C'est pour ça que je retourne le micro. C'est la troisième réunion aujourd'hui où on discute de sujets liés au PPC. Une réunion sur Outreach où les membres du Public Participation Committee n'ont pas été invités. Mais bon, c'est pas grave. Il y a d'autres choses plus graves dans l'existence. La réunion publique du PPC, où on a discuté exactement de ces mêmes sujets. Donc, il semblerait qu'on ait du temps pour discuter trois fois des mêmes sujets et pas de temps pour discuter d'autres sujets. Donc, je trouve que c'est un peu dommage là où on en est. Ce que je voudrais vous assurer, c'est que tous les commentaires qui ont été faits et qui seront faits autour des commentaires publics seront pris en compte par le PPC de façon très sérieuse. Ce n'est pas facile de trouver un consensus sur ces sujets-là, mais je pense que nous allons progresser dans la bonne direction. Merci.
Est-ce que je dois répondre ? Merci beaucoup, Sébastien. Je vais parler en mon nom. Nous parlons de responsabilité et de transparence. Pour être honnête, je dirais que ICANN est trop important et dans ce sens, c'est comme si les banques qui ont eu des problèmes il y a quelques années à propos de transparence, ainsi ICANN et veut travailler correctement, il va y avoir très peu de transparence. Ce qu'on peut espérer est très peu de responsabilité. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait de la transparence, hein, et on voudrait avoir une super transparence, hein. Donc lorsqu'on parle de commentaires publics, il faut reconnaître le public en ce qui concerne Internet, c'est 4 milliards de personnes, et si on reçoit des commentaires seulement d'une poignée de personnes, seulement des personnes qui assistent aux réunions de ICANN, c'est quelque chose qui ne va pas en ce qui concerne la transparence. Parce que et l'aspect public, parce que hélas, beaucoup de gens dans le monde et ne connaissent pas le projet des GTLD, par exemple. Ils connaissent d'autres choses qui sont tout à fait sans importance. C'est vrai que la BBC, Bloomberg, ABC, et The Guardian, CBS se sont présentés pour obtenir des nouveaux GTLD et comme candidats. Donc, si cela n'indique pas qu'ils sont conscients de l'importance des nouveaux GTLD, et de l'importance des registres.com. Et pourtant, ils ont complètement échoué pour que ces questions soient, deviennent intéressantes pour le public ou soient de l'intérêt du public. Donc, à moins que ICANN commence à publier certaines choses sur son site Internet, mais ça ne suffit pas. Et sinon, on a du mal à attirer l'attention de tout le monde. Alors, est-ce que vous savez combien d'individus entrent sur le site d'ICANN, par exemple? Est-ce qu'il y a des moyens de contrôler cela? Excusez-moi, j'étais étonnée par quelque chose que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, ce que vous dites à propos de Mark Zuckerberg? Paul Foudy répond. Steve Crocker reprend la parole. Je sais qu'il y a des choses ici, des internes que nous ne connaissons peut-être pas, mais cette question concernant les mesures de quelque chose, ça donne lieu à beaucoup d'autres questions, mais c'est un point intéressant en tout cas. Savoir combien de personnes rentrent sur notre site Internet. Vous avez une idée? Non. Non, dit Steve Crocker. Non, je ne sais pas. Je ne fais pas ça. Je ne m'en occupe pas. Ça, c'est sûr. C'est un chiffre et qu'il faudrait voir à un moment donné, etc. Mais je sais que ces mécanismes existent. Et il faut voir ce que ces chiffres ont comme valeur, en tout cas, valeur intrinsèque. C'est un petit peu compliqué comme sujet. Merci. Merci. Steve Crocker, bien là-dessus, je vous propose de passer à la question de l'engagement des opérations du GAC et de l'interaction avec le directoire. Et je vais demander à Bill et à Manal de venir nous parler de ces questions. Bien. Excusez-moi, Christina, vous avez la parole. Merci, Steve. Je suis Christina Rodriguez du service de langue de ICANN. Je vais vous parler très brièvement de la recommandation ATRT numéro 18. Cette recommandation dit qu'il faut avoir accès dans les documentations, dans le processus de développement de documents et pour pouvoir avoir accès dans le plus grand nombre possible. Cela veut dire qu'il faut que des informations sur le monde d'ICANN et le contenu d'ICANN soient accessibles à tout le monde dans le plus grand nombre de langues possibles pour permettre à la communauté de participer selon le modèle multipartie prenante. Le deuxième point est de rendre ICANN plus efficace en tant qu'organisation mondiale et de fournir un service dans différentes langues. Le service de langue d'ICANN est fourni un service de langue dans 6 langues des Nations Unies et selon les statuts de ICANN. Et on a ajouté l'arabe, le chinois, le français, l'espagnol et le russe. Et nous traduisons aussi les documents qui sont liés et qui sont publiés dans les 21 jours en général. Et nous avons travaillé pour la création du service d'un de documents de procédure et de politique de service de langue d'ICANN qui impliquent, qui permettent le processus de traduction, d'interprétation et de retranscription, la transcription après les faits et les services liés. Alors, en ce qui concerne ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant, je dirais que beaucoup de choses que nous avons expliquées, que nous avons proposées dans le document de service de langue ont déjà été mises en œuvre. Cependant, nous avons présenté un commentaire public pour le service de politique de langue. Ce commentaire public va être clos le 2 juillet et nous vous demandons de faire des commentaires sur ce commentaire public, de poser des questions si ça vous intéresse au forum. En ce qui concerne les accès au système multilingue, un nombre substantiel de politiques et de procédures contenues dans le document ont été mises en œuvre. La langue et le soutien pour le nouveau GTLD en est un, et son programme, et des conférences, des téléconférences pour les comités de différents types ont été mis en place. Et il y a aussi un ensemble d'interprètes qui sont les mêmes que les interprètes qui fournissent leurs services pour les congrès et qui travaillent pour les téléconférences. Donc, ces traductions sont de bonne qualité et les interprètes sont bien formés, connaissent les questions sur lesquelles ils vont devoir traduire pour les ASO et AS et les AC. Le soutien pour le GAC est aussi quelque chose qui est mentionné, et dans le soutien au niveau des langues, c'est quelque chose qui a été mis en place déjà. Et nous avons aussi une aide concernant les transcriptions des sessions pendant les séances, pendant les réunions d'ICANN. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions à poser. Merci, Christine. Donc, nous voulons ici en profiter pour. Je vais vous demander de. Dit Steve Crocker. Je vais vous demander de garder vos questions pour dans un petit moment. Nous ferons une séance, un tour de questions à la fin. Je vais redonner la parole à Bill concernant l'interaction avec le directoire entre le directoire et le GAC. Merci, Steve. Nous sommes très heureux d'être ici j'ai ici les recommandations du coprésident du GAC et du groupe de travail de mise en œuvre. Nous avons 6 recommandations. Et qui sont en cours, que nous aimerions ici vous présenter. Donc, sans plus perdre de temps, je vous propose de voir ces recommandations. Donc, le conseil du GAC numéro 9. Donc, la recommandation numéro 9, elle concerne la clarté des conseils du GAC. Et le groupe de travail conjoint est arrivé à un accord concernant les conseils du GAC. Le GAC travaille aussi entre les sessions sur un nouveau format ou une nouvelle structure pour les communiqués du GAC et qui vise à fournir de nouveaux davantage de clarté pour identifier les conseils du GAC et pour en extraire facilement et le contenu afin qu'il soit suivi et appliqué. Nous essayons de travailler sur la structure, sur la clarté du texte, de la rédaction et nous essayons de fournir des délais et pour que ces conseils soient ensuite mis en œuvre. Ensuite, nous avons déjà vu l'impact d'une série de conseils reçus du GAC. Ça a été beaucoup plus facile à comprendre. Donc, je pense que ce travail est déjà appliqué. Maintenant, le suivi des conseils du GAC, c'est un problème depuis longtemps pour nous. Être sûr que nous avons bien compris les conseils qui venaient du gouvernement, du GAC, au directoire, et essayer de faire un suivi de ce qui a été fait pour être sûr que les choses ont été appliquées, comprises, parce que ces conseils ont un statut spécial pour nos règlements et donc il faut l'appliquer. Et ça prend du temps, beaucoup de temps pour les personnels d'ICANN, je dois le dire, pour créer créer un registre en ligne du GAC qui est probablement disponible actuellement. Il est en version bêta, mais nous avons capturé tous les conseils possibles lors de la première réunion, depuis la première réunion, et nous sommes dans un processus de suivi de ces conseils. Et nous travaillons sur donc les conseils actuels. Nous essayons donc de travailler de cette façon parce que le plus important c'est de continuer et que tout cela soit utile. Hein? Donc voilà, on en est là. Comme Bill l'a dit, nous considérons cela comme un grand progrès. Et dit Manal Ismail, un grand progrès qui a été réalisé. Et tout ce qui a été publié et qui est paru sur le site internet du GAC. Ensuite, nous avons un conseil du GAC avec un lien en ligne pour le registre en ligne, pardon. Donc, si vous voulez, et vous pouvez vous rendre sur notre site et regarder cela. Comme Bill l'a dit, tous les conseils du GAC ont été remis au registre et nous avons décidé de rendre cela opérationnel pour les conseils futurs du GAC à mesure que nous essayons de constater que les conseils du GAC ont été bien compris et sont exactement mis en œuvre comme nous l'avons recommandé. Et merci. La recommandation numéro 11 concerne la façon dont les conseils du GAC sont approchés pour être sûr qu'on a des mécanismes de suivi et une considération de ces conseils. Ça dépend du travail des registres et donc de la recommandation numéro 10. Mais dimanche, nous avons révisé des documents concernant la préconsultation et les mécanismes de préconsultation qui existent dans les statuts et les mécanismes de consultation des statuts et le directoire a décidé d'agir à l'encontre des conseils du GAC et donc c'est arrivé déjà et donc nous voulons être sûrs que certains documents soient bien compris et que les deux côtés savent bien quelle situation on va avoir si nous, en tant que directoire, on choisit d'ignorer les conseils du GAC aussi. Et je pense que c'est une situation donc délicate. Donc, on travaille comme ça, de manière formelle. Et passons maintenant à la recommandation numéro 12, qui est très importante à mon avis, donc qui signifie le processus de développement de politique et le développement et la mise en œuvre d'un processus pour engager le GAC. Le GNSO et le CCNSO, les processus de ces deux organisations et la façon dont le principe opérationnel dit que les conseils des GAC doivent être suivis, doivent être demandés. Ça fait une différence entre ce qui a. Et nous avons établi une équipe de volontaires, de membres du GAC et de volontaires du directoire pour voir s'il y avait des changements qui étaient nécessaires dans ces statuts, si on pouvait travailler sur ces cadres de travail pour s'assurer que le GAC fournit que le processus du GAC soit ajouté et soit bien suivi et compris. Merci. Rapidement maintenant, nous avons analysé la façon d'inclure les conseils du GAC au début du processus de PDP parce que comme vous le savez sûrement, les conseils du GAC, le GAC doit donner ses conseils au directoire et c'est souvent, ces conseils sont reçus à l'étape finale et donc les conseils du GAC peuvent être reçus de manière négative parfois. Et à ce moment-là, cela va prolonger la prise de décision. Et donc, nous essayons de voir comment nous pouvons donner ce conseil du GAC de bonheur afin que cela ne retarde pas les décisions du directoire. Je pense que jusqu'à maintenant, ça a été très utile que le GAC fournisse ses conseils de bonheur, comme par exemple dans le cas de la procédure rapide dans le cas du CCNSO. Nous informons le GAC de questions qui pourraient affecter des questions de politique publique, par exemple. Bien, merci Manal. Et dit Bill Graham, il y a aussi des questions qui sont importantes pour améliorer la façon dont fonctionne le système multipartie prenante. Et donc, le rôle du GAC doit commencer de bonne heure pour accélérer la prise de décision. Alors, la recommandation numéro 13, mieux informer le GAC et le personnel. On a recommandé qu'il y ait un mécanisme pour assurer que le GAC soit correctement informé lorsque il y a des questions de politique publique qui sont discutées au sein d'ICANN, et nous pensons que c'est utile, c'est très important pour le GAC, pour que le GAC puisse mieux faire un meilleur suivi des processus. Il y a dans les statuts une responsabilité pour le directoire de fournir ce rôle d'informateur, et donc nous sommes en train de voir comment nous pouvons améliorer ces mécanismes pour que cela soit plus précoce et plus efficace. Et Manaldi, nous avons eu d'autres réunions avec le board, avec le directeur ici à Prague, et nous apprécions vraiment le temps qui a été consacré pour des réunions additionnelles avec le GAC, surtout concernant la mise en œuvre des nouveaux GTLD. Bien, passons à la recommandation numéro 14, qui est la dernière recommandation. Augmenter le niveau de soutien et d'engagement des gouvernements. En ce qui concerne le soutien, je suis heureux de vous dire que l'interprétation a été introduite dans les réunions du GAC, ce qui a permis de donner aux membres du GAC davantage de participation. Il y a des discussions concernant la possibilité d'avoir une réunion de haut niveau du GAC à Toronto pour faire venir des gens dans des positions qui normalement participent au GAC pour augmenter leur conscience et leur participation de l'importance d'ICANN et du GAC. Nous savons que beaucoup d'autres choses peuvent être faites. Il y a des discussions au niveau du personnel et au niveau du directeur, au niveau du GAC, pour augmenter l'engagement et le niveau de soutien envers le GAC. Et j'ajouterai rapidement que dit Mala El Ismail, que nous sommes très heureux d'avoir un service d'interprétation pour les réunions de GAC. À Toronto, nous promettons d'avoir les 6 langues des Nations Unies en plus du portugais et du russe. Et les membres pays ont été augmentés de 6 à 20 personnes pour le personnel. Et je vous dirai que nos collègues canadiens du GAC sont en train de se préparer pour la réunion de haut niveau. Et comme cela est dit dans la recommandation numéro 14, ça va augmenter le rôle du GAC au sein d'ICANN et l'importance du GAC auprès d'ICANN, avec donc ces personnes de cadre de haut niveau qui vont participer à ces réunions. Et si les membres peuvent prendre le temps de venir, de participer, de connaître les ressources, etc., pour pouvoir participer à ces réunions, nous en serions ravis. Merci. Voilà, c'est là que nous en sommes. Nous en sommes donc là. Je dois dire que ces projets sont des projets tout à fait positifs. Nous sommes ravis de la façon dont travaille ce groupe de travail. Et lorsque le GAC a décidé que tous ses membres allaient participer à ce groupe de travail, je pensais que ce serait un défi, mais ça marche très, très bien. Et je dirais que les membres du directoire participent aussi, que nous avons un grand support de la part du personnel d'ICANN, comme par exemple Ginny Heller et Jamie Headland. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant à nouveau suggérer que l'on garde les questions pour la fin, et on va donner la parole à Bruce qui va nous parler des opérations de la composition et de la révision des décisions. Bruce Tonkin, vous avez la parole.
Right. You've turned into Denise, Bruce, which is very impressive.
Do I just blast through this one? Does that take me to the right one? Or?
We obviously have them in the wrong order, I'd say.
So if I just keep clicking, it'll take me...
If you just keep clicking, it'll be fine. No, it won't.
No, it won't.
Does anyone know where Bruce's slides are?
We left you out.
All right, well, while
do we want to...
I will start talking.
Je vais commencer à parler. Mais ce n'est pas très transparent en ce moment. On a 20 diapos que l'on a publiées sur Internet. Si vous vous rendez sur le site de Prague et vous regardez la session, toutes ces présentations sont dessus, donc vous pouvez les regarder en ligne. Je ne proposerai pas de suivre tout ce matériel parce que c'est juste pour vous dire ce qu'on a fait. Je voudrais peut-être traiter plus profondément ce qu'on a fait récemment et que l'on va publier. Alors, l'un des sujets que nous avons considéré récemment est le fait de fournir une sorte de guide pour le NOMCOM par rapport aux compétences dont nous avons besoin pour le directoire. Et les directives principales du directoire nous ont dit que c'était inclus dans les statuts. Et donc, on a été regarder les statuts. On a trouvé 6 points qui traitent ce que l'on cherche, qui portent sur ce que l'on cherche. C'est des gens qui aient de l'intégrité, l'objectivité, l'intelligence, qui comprennent la mission d'ICANN, qui ont un contexte culturel large et la diversité géographique. Les gens qui connaissent comment les systèmes de nom de domaine et de l'adresse AGP fonctionnent, qui soient prêts à servir en tant que volontaires et qui peuvent travailler et communiquer en anglais par écrit et à l'oral. En outre des recommandations et de ce qu'on avait dans les statuts, on a fourni davantage de guides et on cherche à ce que les directeurs qui ont gouvernance, qui ont de l'expérience par rapport à la gouvernance des directoires ou l'expérience équivalente dans une organisation de notre taille, en tant que directoire avec des directeurs indépendants, nommés sans la participation du PDG, qu'un directeur qui ait la gouvernance, l'expérience dans la gouvernance du directoire ou dans des organisations à but non lucratif, et dans des réunions où les membres du directoire soient distribués dans des pays différents, dans des fuseaux horaires différents, avec des groupes de 20 personnes ou plus. Et donc, on va se servir davantage des outils de téléconférence, commencer à s'envoyer des messages. Et en fait, on pense qu'on a fait un audit des compétences du directoire et on pense qu'on a de bonnes compétences et qu'on a de gens qui ont beaucoup d'expérience sur l'opération des registres de GTLD et des bureaux d'enregistrement, des registres CCTLD, des registres d'adresses IP et des standards et protocoles techniques d'Internet avec les procédures de développement des politiques ICANN, les traditions légales et l'intérêt public, avec plein de compétences dans la planification stratégique, le budget, la sensibilisation et les relations internationales. On n'a pas beaucoup de compétences dans la gestion exécutive dans une organisation aussi grande qu'ICANN et dans la conformité et régulation des cadres et dans les procédures d'audit. Mais on ne cherche pas spécifiquement des avocats qui s'en connaissent. On cherche pas des personnes qui soient comptables. On cherche des gens qui aient de l'expérience dans un directoire pour aborder ces secteurs. Donc, on a des gens, on cherche des gens qui aient l'expérience dans ces secteurs et pas nécessairement dans ces disciplines. Donc, on devrait dire cela pour que vous ayez une idée de ce qu'on a passé au NOMCOM et pour être sûr que le guide soit visible dans le domaine public et que ce soit enregistré aujourd'hui. On va voir si on a d'autres diapos. Voilà. Donc, sur la diapo numéro 5, il y en a même mis des effets lorsqu'on passe d'une diapo vers une autre. Et donc, vous avez déjà peut-être commencé à voir probablement les les faits accomplis qu'on a et les opportunités. On veut donner aux membres du directoire l'occasion de faire des déclarations, de voter contre s'ils ne sont pas d'accord. Et on va commencer à fournir davantage de traductions de matériel. Et on vient de parler avec le membre du directoire et on a commencé à discuter les compétences des membres du directoire et on a fait savoir au NOMCOM. Et on a aussi commencé à dépenser davantage sur la formation et le renforcement de compétences. Et on a passé davantage de temps à la formation de confidentialité et d'éthique. Et on crée davantage de matériel de formation que la communauté dont la communauté peut se servir et non seulement le directoire. Donc, on est en train de faire une auto-évaluation de performance du directoire et on essaie d'être cohérent entre le NOMCOM parce que dans le passé, chaque comité de nomination a été responsable de développer ses propres procédures et on a vu que c'était simultané avec le comité, qu'on avait un peu d'histoire là-dessus, et le directoire a récemment approuvé une équipe ou un groupe de directives de transparence. Et on commence à travailler aussi sur la transparence des conflits d'intérêts, les procédures à suivre à l'intérieur ou au sein du NOMCOM. C'est difficile parce qu'on ne peut pas publier qu'un membre particulier du comité a un conflit d'intérêts par rapport à un rôle ou une position, un poste pour lequel il se présente candidat, mais on a besoin de transparence de toute façon. On a dû se presser un peu parce qu'on a eu beaucoup de réunions dans le passé, l'équipe, le personnel et le directoire devaient aller au gala, à d'autres réunions et on n'avait pas le temps. Mais on a aussi dû rédiger les résolutions du directoire et à 2h du matin, peut-être vendredi avant la réunion du directoire. Et donc, on veut s'assurer que tous les matériels pour la prise de décision soit écrit 7 jours auparavant. Et lorsqu'on a une réunion telle que celle-ci et qu'on a Steve qui va s'adresser au forum public, on va fournir de toute façon des commentaires à la communauté sur ce que le directoire est en train de faire et on va finir avec les résolutions du directoire dans le mois à suivre à partir de la réunion. Donc, on doit se servir de l'email un peu plus pour approuver les affaires administratives. Et si on avait à approuver la nomination d'un membre du directoire pour un comité particulier, on devra le faire à travers email au lieu de le faire par appel téléphonique. On a de toute façon introduit la rémunération et c'est une très bonne mesure. J'ai entendu dire plusieurs fois cette semaine qu'on devrait commencer à travailler sur des politiques par rapport au tir à l'arc numérique et c'est l'utilisation suffisante pour le personnel de le mettre en œuvre ou si ça devrait être un processus de développement de politique d'ICANN. Si vous avez des recommandations pour l'authentification WIS, est-ce que ce serait à ICANN de travailler avec les bureaux d'enregistrement et de tenir compte des contributions de la communauté ou ça devrait être un processus de politique publique. Et en général, ceci prend davantage de temps que le processus initial, et bien qu'on l'ait créé pour accélérer les processus. On devra travailler dessus avec davantage de détails. On a un document sur lequel on est en train de travailler et le comité de gouvernance du directoire va le considérer. On va le publier pour commentaire public et on espère avoir une session intéressante lors de la réunion de Toronto. Et on essaie de comprendre simplement les directives ou les paramètres lorsqu'on doit faire ou appliquer une recommandation et quand est-ce que aussi, on devrait le publier pour que le processus de consultation pour les multiples parties prenantes de la communauté puisse participer. Donc, on essaie de publier les matériels d'information du directoire et les déclarations de vote. Je pense qu'on l'a déjà vu. Et la traduction des documents. On reçoit beaucoup de contributions et cette semaine, je pense que c'était Martin Butterman, mais en fait, j'ai entendu plusieurs commentaires qui suggérait que l'on écrive ceci pour le bénéfice des droits humains. Et en fait, ça dépend des volontaires. Et si ce matériel n'est pas publié, lorsqu'on en a besoin, on devrait considérer à quel point on devrait dépendre des volontaires et de leur production de contributions, ou si on devrait former une commission d'experts pour qu'ils fassent des contributions. C'est un sujet qui a été remis parce qu'on a travaillé sur les éthiques et les conflits. Et on a eu 3 révisions externes et on vient de finir de travailler. Maintenant, à ce moment, on commence à se concentrer sur les mécanismes de responsabilité et on a 3. On a le défenseur du peuple qui peut ne pas être d'accord avec une décision du directoire ou du personnel. On peut aller voir, on se rapprocher du défenseur du peuple qui va être un médiateur. Et les gens ne s'en servent pas vraiment de cette facilité qu'on leur fournit. En général, on a eu au lieu de 15 cas où le défenseur du peuple intervient par an. Et donc, on ne se sert pas vraiment de ces fonctions et on pourrait le faire, on devrait le considérer. Puis on doit reconsidérer le sujet des décisions de directoire, comme par exemple récemment, c'était le cas du Comité olympique international et de la Croix-Rouge qui ont demandé de reconsidérer une décision du directoire. Mais aussi, on a eu le regroupement de propriété intellectuelle qui nous a demandé de reconsidérer la décision par rapport au point 4. Et on a des demandes telles que celle-ci quelques fois par an. Et c'est bien de présenter de nouveaux matériels qui n'étaient pas disponibles au moment où le directoire a pris sa décision. C'est une situation qui a changé beaucoup et on devrait voir la reconsidération. Et puis, on a un tribunal indépendant, c'est le 3e point qui est, à mon avis, qui a été utilisé une seule fois pour la décision du triple A. C'était un procès de plusieurs millions de dollars. Donc, lorsqu'on voit les coûts des parties qui ont initié la décision, on voit que l'organisation moyenne ne pourrait pas se permettre de faire ce processus. Et donc, on devrait améliorer le processus pour que le coût ne soit pas aussi important, mettre une limite de page ou si on ne paye pas des avocats, je ne sais pas, qui vont nous charger 1 000 dollars pour lire une page. Donc, on peut faire des améliorations et ce mécanisme peut être amélioré. Donc, on pense qu'on devrait avoir des experts indépendants qui forment un type de panel, mais aussi en même temps travailler avec un cabinet d'avocats qui puisse assurer l'efficacité de ces processus. C'est du grand travail qui manque et on va vous en reparler à Toronto certainement. Puis, j'ai aussi parlé du défenseur du peuple, comme j'ai dit, et les standards et les méthodes dont il se sert sont très bons, mais peut-être qu'il n'a pas assez de travail. Et donc, vous devez commencer à vous en servir. Et le processus de reconsidération, encore une fois, comme j'ai dit, on est en train de faire une révision du processus pour voir comment on peut l'améliorer. Oui, OK. Donc, je comprends maintenant. Cette diapo, en fait, mentionne le travail qu'on vient de commencer à faire et les documents sur ces sujets vont être publiés pour révision et les exécutifs de politique, bien sûr. C'est où on s'en sert de la fonction de politique et le travail qu'on fait sur les mécanismes de responsabilité. Et c'est tout. Donc, on travaille beaucoup là-dessus et vous avez certainement des questions, je suis sûre. Bien, on va attendre jusqu'à la fin pour les questions, mais en fait, il ne reste plus beaucoup de temps. Hi. C'est Denise Mitchell qui parle, puisqu'on veut savoir quels sont vos commentaires et vos contributions. Et donc, je ne vais pas passer mes diapos. Je vous encourage à aller voir sur le site. Et je voudrais vous dire qu'on fait un suivi de tout ce qu'on fait par rapport au processus ou au projet de transparence et de responsabilité. Vous pouvez le voir sur notre site. On a le lien sur l'écran. Il est mis à jour régulièrement. Vous allez là-dessus aussi, l'affirmation d'engagement. On mesure bien sûr aussi ce que l'on fait. Et un composant de cet aspect et d'avoir les mesures ou les paramètres adéquats pour pouvoir avoir une base à partir de laquelle travailler pour faire les améliorations nécessaires, pour montrer à ICANN combien on est transparent ou combien on devrait l'être. Et vous avez davantage d'informations sur le site web aussi. Et puis, brièvement, pour la prochaine équipe de révision de transparence et responsabilité, on s'engage à le faire toutes les 3 années. Donc, dû à l'AOC. Donc, on voudrait le soutien des organisations de support et des comités consultatifs, et c'est tout. Alors, Chris, je te rends la parole. Merci, dit Chris Despain. Merci, Denise. Si vous avez des questions pour Christina, Bruce, Bill ou Manal. Et principalement, on veut aussi avoir des commentaires, des leçons que vous avez tirées, les bilans. Et donc, vous pouvez former une queue derrière Marilyn. Non, en fait, je n'étais pas première, dit Marilyn. Non, s'il vous plaît, par hauteur. Non, je pense que Marilyn et moi, on a la même hauteur. C'est Becky qui parle. J'oublie quelle est mon identité ici cette semaine, mais je voudrais dire que ceci représente beaucoup de travail, énormément de travail, et ça se voit. Il reste beaucoup à faire, évidemment, mais je pense qu'on devrait prendre une minute et penser à ce qu'on a fait et remercier Denise et tous ceux qui sont dans le directoire et dans les comités qui travaillent dessus. J'ai quelques questions ou suggestions peut-être pour Bruce. Pendant très longtemps, j'étais intéressée aux problèmes de révision indépendante. Et donc, si vous allez avoir ou engager un cabinet pour qu'ils mettent en œuvre ces processus, je serai un peu plus soigneuse parce que vous devrez améliorer ces processus de façon efficace. Et pour moi, s'il s'agit de 10 pages ou 15 ou 100, c'est ça le problème, en fait, avec les CM. On allait le lire en cette année. S'il y avait quelque chose de plus simple, plus courte ou une médiation volontaire, je voudrais vous encourager à faire des essais. Bruce Tonkin dit non, je n'ai pas dit qu'on a engagé un cabinet légal, un cabinet d'avocats. J'ai dit qu'on allait engager un cabinet légal en tant que partie de la révision et qu'on allait nommer un panel d'experts indépendants. Donc, c'est une combinaison des deux. Merci, oui, je sais que les avocats sont de très bonnes personnes. Et j'en ai des amis même qui sont avocats. Mais je ne veux pas que ce soit trop grave. Bruce Tonkin dit oui, en fait, on va commencer à travailler dessus, on veut le développer et je pense que vous en connaissez plus que moi, mais je ne connais rien de droit, moi, ni de loi. Et donc, on veut avoir un panel international pour que tout le monde des différentes régions puisse faire des contributions pour construire aussi ICANN. C'est une combinaison dont nous aurons des guides. Et alors, dit la dame, est-ce que vous avez un processus de sélection ou est-ce que le panel indépendant, il est sélectionné comment? Non, dit Bruce Tonkin, on a eu un appel pour des membres, donc si vous voulez les rejoindre. Mais en fait, on n'a pas reçu autant de candidatures comme on aurait voulu. On a reçu 4 candidatures. Et on était un peu déçus parce qu'on ne pouvait pas former et dépendre simplement d'un panel indépendant parce qu'on n'avait pas assez de personnes. Donc, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, on cherche certainement des volontaires. C'est tout. Merci, Becky, dit Chris Despain. C'est Steve Crocker qui dit, bon, on est en retard et pour vous donner beaucoup de temps, est-ce que vous êtes d'accord si on ajoute 15 minutes de plus et on finit à 14h45? C'est bon? Bien, merci. Marilyn, vas-y, dit Steve Crocker. Bon, merci. Je suis Marilyn Cade. Je voulais poser une question très courte sur un commentaire ou une déclaration qui m'a semblé que Bruce a fait. Et c'est sur le poste que le regroupement de commerciaux a transmis sur ce sujet. Et c'est sur les compétences pour le directoire et s'il y a une exigence obligatoire ou même une demande trop fanatique par rapport aux demandes pour les directoires préalables ou s'il y a une expérience que l'on pourrait comparer que vous acceptez. Et je le dis parce qu'on a discuté avec le NOMCOM par rapport aux besoins. On a discuté avec le NOMCOM le besoin d'avoir un équilibre dans le directoire et on voulait s'assurer d'avoir des gens qui s'en connaissaient, qui connaissaient la communauté et qui venaient du regroupement et de beaucoup d'autres regroupements, bien sûr, mais construire l'expérience des cadres supérieurs d'une société ou d'un fournisseur Internet à travers leur travail au sein d'ICANN. Donc, on pourrait avoir un cadre quelque part qui puisse partager son expérience. Et Bruce Tonkin dit, non, en fait, on a considéré les critères et on en a 6 dans les statuts. Et donc, ce sont des facteurs qui, bien sûr, doivent être ajoutés à d'autres. Donc, en fait, on n'est pas en train de dire qu'on cherche Superman. Mais on cherche quelqu'un qui ait ces facteurs. Il n'y a pas de gens qui les aient tous, mais on cherche des gens qui aient la plupart. Et on a en même temps dit qu'il devrait avoir la gouvernance du directoire ou expérience supérieure. Ce pourrait être dans une société, un directoire ou l'équivalent. Merci, dit Marilyn Cade. Alors, lorsque vous dites fonction exécutive / politique, et vous avez dit dans votre explication politique ou personnel, et donc on ne parle pas de personnel en tant qu'exécutif ou cadre supérieur. J'essaie de comprendre. Oui, non, en fait, dit Bruce Tonkin, c'était la façon d'abréger le PowerPoint. Merci, dit Marilyn Cade. OK, donc Mike, je suis Mike Pelage. Bruce, lorsque tu as fait tes recommandations pour le NOMCOM, je suis d'accord avec toi, c'est bon d'avoir formé le NOMCOM pour les 2 années préalables, mais par rapport à tes conseils, je pense qu'on devrait avoir des conseils transparents et francs pour le directoire, du directoire vers la communauté, parce que l'année dernière, on a reçu des conseils du président et du chair et du PDG, et c'était un peu différent. Je me sentais un peu mal à l'aise avec les conseils qui avaient été transmis au NOMCOM. Donc, si vous allez conseiller le NOMCOM, il est important qu'il soit ouvert et franche. Oui, dit Bruce Tonkin, on va le publier. On l'a envoyé très récemment, mais allons le publier certainement. Bien. Alors, dit Mike Pallage, je voudrais féliciter le directeur pour le travail qu'ils ont fait parce que vous avez des problèmes d'éthique et on vous félicite. Mais en fait, lorsque vous augmentez, je voudrais que vous augmentez le budget qui s'accroît et lorsque vous voyez les directives de fournissement de services actuels, dans ces contrats, on a 150 000 $ de plus que dans le budget que vous avez destiné. Donc, Steve, lorsque Denise travaillait davantage avec les activités de la GNSO, elle était merveilleux, c'est à chaque réunion, on avait un rapport qui était publié de chaque personne, de chaque membre de la GNSO qu'on avait fondé, si c'était l'hôtel ou un voyage. Donc, pour l'avantage de la transparence, on voudrait avoir un rapport où l'on publie toutes ces informations, des PDG et des rapports de paramètres. Par exemple, à Costa Rica, c'est pas à Costa Rica, mais 20% des gens de la réunion de Costa Rica Dakar avait été fondée par ICANN, n'est-ce pas? Donc, si une de cinq personnes reçoit une subvention ou qu'on leur paye 10 % en tant que membre des personnes qui ont été engagées indépendantes, sont 12 % de boursiers ou la CNSO. Donc, je pense qu'il est important de savoir où on en dépense. Oui, merci, Mike, dit Steve Crocker. On va le réviser. Ce serait intéressant de, au moins à mon avis, on a fait une modification dans la pratique, mais aussi on a un problème de praticité et il est standard de mettre des seuils, d'établir des seuils et dire, bon, pour les montants par-dessus, ce coût, on va pas tout couvrir, sinon tout le monde devrait avoir les mêmes coûts. Mike Pallage dit, bon, oui, mais lorsque vous prenez des décisions telles que 25 000 ou 50 000 ici ou ailleurs, je dis que la communauté devrait savoir où on en dépense. Steve Crocker dit oui, je pense qu'on va devoir le dire et parce que vous parlez d'argent. Alors, c'est Cheryl Langdonor. Et comme le procès verbal le dit déjà, je suis Cheryl Langdonor. C'est une rigolade entre nous. Je pense que je suis le seul membre d'ATRT qui est ici, donc je veux faire quelques petits commentaires par rapport à nos points de vue personnels et je soupçonne que le reste de l'équipe qui est ici serait d'accord avec moi. Je suis contente de voir vos résultats. On sait que c'est pas fini et on le savait déjà. Mais lorsque j'étais ici aujourd'hui, j'ai été ravie de voir les progrès, d'entendre que les interactions des membres du GAC interagissent davantage et on espère voir le registre. Et je sais qu'on a toujours à travailler dessus, mais tout ce que vous avez fait avec le NOMCOM et les problèmes qui nous préoccupaient le plus ont été bien traités. Mais je voudrais me centrer un peu sur ce que Phyllis et Christina ont présenté. Parce que on ne savait pas ces informations que vous nous avez données. C'était le service et la politique de service de langue qui nous manquait et c'est ce que vous nous avez donné. Bien sûr, c'est une version préliminaire, mais je voudrais le reconnaître et le déclarer pour le public. C'est très important pour le GAC, pour les membres de regroupements de commerciaux qui ne sont pas anglophones et pour tous les regroupements de la CNSO. Ce serait intéressant d'avoir des paramètres d'intérêt dans la CNSO, mais le GAC et ALAC et ADLARGE, bien sûr, en ont besoin. Et merci pour le faire avant que je vous le demande. Vous serez ravis de voir que j'ai réussi à en finir avec l'ALAC et vous allez recevoir, bien sûr, une réponse. Et on espère avoir une bonne réaction aux commentaires pour le document que vous avez publié, mais il est important de l'intégrer à la période de commentaires et au système de réponse. Et j'étais ravie de voir qu'on évaluait une possibilité par rapport à une réponse qui soit parallèle à la période de commentaires pour ne pas devoir attendre jusqu'à la période de réponse parce que c'est ça le modèle qu'on voudrait avoir. Et on apprécie la pression de demander aux gens de commencer à traiter le sujet avant pour commencer le dialogue. On n'a pas besoin que vous répondiez, et Denise, vous savez ce que je ressens envers vous. Merci, dit Steve Crocker. Chris Despain dit, bon, on va discuter plus tard, mais si on pourrait le faire, discuter la version 2 des ATRT. Oui, dit Cheryl Langdonor. Je m'excuse, mais je dois partir parler avec votre groupe de travail FLI. Je suis Raimundo Beca et je parle en représentation de personnes. Et je le dis grâce à ce que Cheryl a dit. Lorsque on était en train de faire la révision des ASO, Cheryl a suggéré de faire un rapport ATRT pour mesurer la transparence et la responsabilité de l'ATRT. Et je pense que c'est une très bonne mesure que l'on a eue à partir de cette suggestion. Donc, je suggère que le que si le cycle va commencer à travailler sur un nouveau cycle, le cycle et la communauté devraient faire attention à ce que l'on a fait et aux recommandations incluses dans le rapport de, et la réaction des gens par rapport au, au rapport de la NRO.
Merci, Paul. Merci, Chris. Je suis Paul Diaz du registre d'intérêt public. Je voudrais faire des commentaires sur ce qui a été fait aussi. Et Bruce, concernant la recommandation 6, on en a beaucoup entendu parler, ce qui a été fait. Et je voudrais que ce processus de clarification entre le processus de PDP, la politique de PDP et la politique exécutive, c'est quelque chose de très important. Donc je pense qu'il faudrait avoir ici des commentaires publics ou une demande en tout cas auprès de la communauté pour avoir un peu de participation. Mais je pense que ce sont des questions très importantes pour l'évolution du travail. Pour être juste, je dirais que nous, c'est un processus qui avance. Hein, nous apprenons beaucoup de choses. Donc, nous voulons vous donner notre point de vue aujourd'hui. Et beaucoup de personnes ont posé cette question mardi. On a donné cet exemple spécifique qui est le Ruiz. Il est important d'avoir différentes opinions de différents regroupements. Certaines personnes disent ne demandez à personne, faites-le. D'autres nous disent oui, on a besoin de ce processus de consultation publique. Donc, si on aime une décision, on demande au personnel de l'appliquer, dit le board. Et sinon, non, on demande un processus de 3 mois. Hein. C'est ce qu'on nous reproche. Hein. Donc, c'est peut-être des choses que certains disent. Donc, si je l'aime, faites-le tout de suite. Si je ne l'aime pas, on passe par un processus de consultation. Donc, je voudrais voir un petit peu certaines lignes, certaines directives pour être sûr qu'elles soient justes. Hein, on a discuté certains points. Il y a des commentaires et on essaye de poser des questions à la communauté sur certains sujets. Hein. On a parlé, par exemple, du tir à l'arc numérique. On a communiqué au directoire qu'il y avait ici des questions qui concernaient l'approche politique. Je pense que nous allons nous focaliser un peu plus là-dessus. À Toronto, nous le reverrons, mais c'est un exemple. Il y a en tout cas deux questions importantes, le rapport de Ruiz et la sécurité et la stabilité. Hein. Donc, il faut être concret. Je sais que sinon, c'est une discussion académique. Chris Dispain. Oui, je pense que la recommandation 6 aussi est importante parce que ce qui n'a pas eu lieu avec la version 1 de la TRT, c'était une consultation. L'équipe est indépendante, mais la consultation avec les personnels, c'est le type de recommandation qu'il faut nous faire. Hein. Comment vous voulez qu'on mette telle chose en marche. Comme ça, on a une série de recommandations avec un contexte et on essaye de voir comment on peut faire cela. Donc, voilà, on veut ce type de choses. Hein, pour la TRT2, un type de liaison, type de choses qui vont nous permettre de dire, vous voulez qu'on aille dans telle ou telle direction? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est possible du point de vue du processus? Bien, très rapidement. Une question très rapide, dit Paul Diaz. Et en fonction de ce que Mike a dit, il serait très utile qu'on voit, et de la part de la communauté, qu'on voit le travail qui est fait, les sous-groupes qui sont formés. Il y a trop souvent un problème de transparence. Hein? Et au niveau de la qui dépend de la responsabilité des cadres de haut niveau. Donc, si on regarde les données concernant les dépenses ou ce genre de choses, on voudrait savoir exactement de quoi il s'agit. Il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, je suis Amy Marshall. Je représente l'association National Advertiser. Et je voudrais parler en tant que personne, en tant qu'avocat. Qui sait qu'il y a des problèmes concernant une procédure initiale et de, il faut essayer de comprendre comment la défense, comment nos propres commentaires sont nécessaires pour prendre certaines décisions qui ont eu lieu, qui ont été prises sur ces points-là. Ce que je conseille, de nombreuses compagnies qui ont eu une docket, hein, lorsque le docket a fermé un jour, et alors le résumé des commentaires a été fait, a été publié, et on a vu que cela apparaissait dans d'autres commentaires. Et donc, le comité de nouveau GTLD qui avait pris une décision avait seulement quelques explications. Donc, j'essaye d'expliquer à des corporations internationales ou multinationales, hein, comment notre décision et notre intérêt pour elles fonctionnent. Et hélas, j'ai très peu de choses à leur offrir. Donc, j'aimerais beaucoup avoir un dialogue avec vous. Comment améliorer ce process? Parce que, par exemple, très souvent ici, beaucoup de gens sont là depuis longtemps, mais on est des parties contractantes seulement. Donc, on doit s'assurer et que ce genre de choses soit transparente. Merci, dit Chris Dispain. Et je pense que Steve Crocker, oui, on vous a entendu, c'est important. Bien. Alors, Kieran, vous avez la parole. Kieran McCarthy. En général, je dirais que j'encourage la direction dans laquelle nous allons, surtout concernant le travail que fait le GAC avec davantage d'équipes et ses rapports. Et le directoire aussi, ICANN est en train de développer ce concept de transparence, hein, et plutôt que donner des recommandations et que vous êtes obligé de les appliquer, tout ça. Donc, je pense que c'est très bien. Maintenant, je dirais aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer parce que c'est un processus très formel qu'on applique ici. Et j'ai un peu l'impression que s'il n'y a pas clause 1.6, que faisons-nous? Par exemple, le fait que je sois ici, derrière un système, hein, dans une grande salle, hein, et il y a des gens qui parlent assis à une grande table sur une estrade. Et je pense que ça, c'est un peu un problème. Je pense qu'on n'a pas vraiment l'interaction qu'on devrait avoir. Donc, il faut essayer de trouver comment est-ce qu'on peut devenir plus transparent et plus responsable. Hein, et il faut augmenter cette transparence et cette responsabilité. De toute façon, je sais qu'ICANN ne veut pas commettre d'erreurs. Donc, même si on a le tir à l'arc numérique qu'on peut considérer comme une erreur, il y a eu une justification. Hein. Donc, ICANN dit on a fait une erreur, mais au moins reconnaître que vous avez fait une erreur. Hein. Pas toujours laisser les choses suivre leur processus. Bien, donc, et un autre exemple, le fait de capturer l'information. L'information apparaît ici sur l'écran et ça devrait apparaître sur un PDF quelque part sur notre site Internet parce qu'on a eu tellement de sessions cette semaine qu'on ne capture pas vraiment ce que les gens ont dit au cours des sessions d'une façon correcte. Donc, je pense qu'il faudrait que ce soit publié ou capturé, enfin, saisi d'une certaine façon et que ça aussi, qu'il y ait une transparence ici appliquée ici aussi. Jonathan Souk. Donc, Jonathan Souk, association de technologie compétente. Et je pense que l'équipe de transparence fait un bon travail. Nous allons maintenant passer à la partie de la stratégie. Je pense que la responsabilité est un problème pour cette organisation permanente. On a un groupe de multiparties prenantes et on demande aux gens de venir nous aider parce que tous ces gens ont exprimé la même chose. Ils veulent être de l'autre côté du téléphone et ils veulent qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui réponde à leurs questions. Et j'ai été surpris, hein, je dois le reconnaître. lorsque j'ai travaillé comme consultant, si j'avais un projet de 50 000 $ de Google, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui réponde aux questions. Et quand on parle d'un projet de 20 millions de $, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté. Et ça n'arrive pas. Donc, pour en revenir à ma campagne, la transparence est là. N'arrive que lorsqu'il y a des objectifs qui peuvent être mesurés et pour lesquels on doit être responsable. Donc, je reviendrai là-dessus. Je suis ravie du succès que ce qui concerne les paramètres, etc., a eu. Je pense qu'il faut qu'il y ait ce type de paramètres. C'est très bien reçu. Je crois que ça peut devenir un exemple pour le reste de ce processus. Parce que, dans l'absence d'objectifs, on n'atteindra jamais notre but. Merci. Je suis Ocean Island. Je suis un consultant. Je parle en mon nom. Et je travaille depuis 20 ans avec Internet et dans le domaine de l'éducation. Je voudrais vous recommander de tirer votre expertise, d'avoir davantage d'expertise dans le domaine de la communication. Il y a beaucoup de problèmes de compréhension concernant les nouveaux GTLD, les retards, etc. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, il ne s'agit pas seulement de communication, mais aussi d'éducation. Je pense qu'ici, en ce qui concerne la communauté, beaucoup de gens ne savent pas certaines choses. Il faut éduquer les compagnies multinationales, le secteur de la banque. Hein, je pense qu'il faudrait et mettre l'accent sur certains domaines, comme par exemple d'autres banques. Et ça dépend de ICANN, mais aussi du travail que vous allez faire dans les mois à venir. Merci. Merci, Jeff. Et Jeff Brugman, nous avons travaillé sur les questions d'ATRT au sein d'ICANN. Nous avons été frustrés de sentir que les données, la position que nous avons prise en ce qui concerne la question des noms de domaine, les programmes de noms de domaine. Donc, nous voudrions que l'on applique la recommandation ATRT numéro 7, hein, qui est les paramètres de décision pour le directoire. Je pense qu'il y a une grande différence entre les actions typiques du directoire et par rapport à des décisions prises par des organismes sans but lucratif. Et je pense qu'il y a une analyse concernant les commentaires publics qui ont été acceptés, pourquoi, qui est nécessaire. Je pense qu'il faudrait aussi éclaircir la différence entre ce qui va être un processus politique et les décisions du directoire. Il faut vraiment voir quel type de décision devrait provenir de chaque processus et pourquoi ce sont différents. Je suggérerais donc qu'on analyse davantage et qu'on fournisse davantage de documents au public pour ce type de processus, pour nous aider à aborder ces questions. Les justifications sont faites par le directoire, mais les documents en général sont à la disposition. Par exemple, dans le cas des nouveaux GTLD, il y a une série de documents, tout le monde peut les consulter. En ce qui concerne les justifications, je pense qu'il y a assez de documents. Oui, peut-être un équilibre entre l'opinion générale et ce que nous avons décidé, pourquoi nous avons décidé, une attention spéciale pour expliquer pourquoi on n'accepte pas certaines positions. C'est intéressant parce que ceux qui perdent se sentiraient mieux si ce type de raison était divulgué. Bien, la dernière personne, Adam Pick, je parle en mon nom. Merci beaucoup. Je pense que le tableau de bord est très utile, mais je ne pense pas qu'il soit transparent. Si on regarde ATRT, l'équipe d'ATRT en elle-même, comment elle a travaillé sur les regroupements, à toutes les réunions, on voit Larry Creason, etc. Et ça, c'est de la transparence. Et le tableau de bord pour voir les progrès, etc., c'est quelque chose d'utile. Et c'est pas ce qu'on fait. Oui, c'est un petit peu, mais ça ne contient pas vraiment les discussions et la compréhension de chaque problème qui pourrait intéresser un regroupement en particulier. C'est le travail que fait le directoire avec les regroupements. On leur demande ce qu'ils veulent, de quoi ils veulent parler. Oui, mais je dirais parler plus spécifiquement de la mise en œuvre, l'équipe de mise en œuvre devrait faire cela. Je sais que Bill l'a fait au sein du GAC et ça a été très utile. Et puis, il y a un exemple dans le cas des NOMCOM aussi qui vont avoir des entretiens avec des candidats cette semaine et qui vont faire un choix à la fin de la semaine. Mais on n'a pas d'apport de la part de la communauté sur ces points-là. Et je pense que ça ne suffit pas comme transparence. Et je pense que le comité de gouvernance, hein, un autre exemple, il y aurait beaucoup d'exemples de ce type. Donc, je pense qu'on peut avoir un processus plus transparent, comprendre comment fonctionne la mise en œuvre. Le tableau de bord est bon, mais il faut faire encore mieux. Donc, essayez d'être encore plus transparent dans les informations que vous publiez ou que vous diffusez. Merci beaucoup, Adam. Cela nous amène une petite synthèse finale avant de clore notre réunion. Comme je l'ai dit au début, nous comprenons qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Nous comprenons qu'il reste encore des choses à faire, mais au cours de la prochaine période, et avant Toronto, notre intention est de réunir notre énergie et d'augmenter le niveau d'énergie et d'augmenter aussi la spécificité de la compréhension concernant ce qui a été fait, les détails concernant cela. Nous recevons des commentaires, des points de vue, des opinions sur ce qui a été fait, des plaintes aussi, hein. Vous nous dites ça c'est bien, mais ça ne suffit pas, etc. C'est ça qui nous intéresse. Nous sommes heureux de recevoir toutes ces considérations, ces commentaires de votre part, parce qu'ils nous sont très utiles pour améliorer le processus. Ça a été une session très intéressante. Nous allons devoir maintenant voir un petit peu les commentaires accumulés ici et essayer de voir comment nous pouvons tirer des leçons de ces commentaires pour le prochain processus à TRT. L'équipe de révision est précédente et de la TRT a fait de gros efforts. Beaucoup de travail a été fait, comme vous le savez, et pour faire une prochaine version de cette ATRT, qui sera la TRT 2. Donc, prenez tout cela avec beaucoup de sérieux. Vous pouvez contribuer avec nous à ce travail et à ce processus. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un commentaire? Eh bien, alors, merci à tous. Nous allons clore ici. Nous verrons dans le prochain groupe qui sera et la prochaine réunion sera le forum public et nous vous invitons à y participer activement. Merci.
shall we see?